Bonjour tout le monde, bienvenue au Club Démenti. Je suis Sylvain Démenti et je suis accompagné de magnifiques personnes pour parler du cinquième tome des Chroniques de San Francisco qui s'intitule D'un bar à l'autre. C'est ça qui est au menu ce soir. Et pour en parler avec moi, ma chère amie Daphné. Bonjour Daphné.
Bonsoir.
Bon retour. Je dis
Merci.
bonjour, c'est rendu soir, c'est vrai, mais
Ouais,
je suis un peu
peut-être que
mangé.
les gens nous écouteront dans la journée, c'est
C'est
ça.
ça, quand on
Voilà.
travaille dans le public avec un horaire qui change, on dit bonjour, bonsoir, peu importe. Bref, et c'est le retour de Karine. Salut Karine.
Allô?
Je suis vraiment content de te revoir. Et ben c'est ça. Là, on va discuter maintenant du cinquième temps des chroniques de San Francisco. J'allais dire, je suis un peu moins content d'en parler. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une belle excuse. C'est une belle excuse pour discuter avec vous. Et je dis tout de suite bonjour à Sab. Bonjour Sab. Merci d'être là. C'est toujours agréable. Donc, je tiens avant de commencer la conversation sur le livre, je tiens à vous rappeler que c'est un club de lecture. On va prendre pour acquis que vous avez lu le livre et donc on va divulgâcher à gogo. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est de quoi ça parle ce livre-là. Alors, ben, si vous avez lu les autres tomes, ou à tout le moins si vous avez regardé les autres lives, vous savez que ça se passe à San Francisco. Donc, c'est les Chroniques de San Francisco, on va dire, et c'est de Armistead Maupin, je ne l'avais toujours pas mentionné. Et ben, on va toujours suivre la vie de ces gens, de ces personnages qu'on a vus, qu'on a quasiment vu naître, et dans certains cas, qu'on a vu naître au cours des tomes précédents. Et donc, on va retrouver Mary Ann, on va retrouver surtout Michael et Brian qui vont se mettre ensemble et qui vont partir dans un trip avec un garçon que Michael Mouse a rencontré à Alcatraz. Donc, il y a ce groupe-là. Ça, c'est une intrigue, une des trois intrigues, j'ai envie de dire, principales. D'un autre côté, on va suivre Didi et Dore, qui sont, on se souvient, les survivantes du culte de Jonestown. Et on va les suivre, elles, avec leurs deux enfants, qui s'en vont dans un festival de musique pour femmes, vraiment pour femmes. Et ensuite, on va aussi suivre la troisième intrigue importante, je dis ça entre grosses guillemets, on va suivre le nouvel amant. Alors là, écoutez bien, là, je vous rappelle qu'on est dans un soap. Le nouvel amant de la mère de Didi qui s'en va dans un chalet pour, ben, principalement, pour retrouver ses chums de gars, hein, parce que d'un bord à l'autre, je pense que le titre français fait vraiment référence au groupe de femmes et au groupe d'hommes. Mais par la bande, il va aussi se louer un petit chalet pour avoir une aventure extra-conjugale avec un mannequin de taille plus. Donc, c'est ça les trois intrigues principales. Et à travers de ça, il y a Anna Madrigal qui essaie de sauver un escalier, mais tout le monde s'en calisse. Bref! Alors, rapidement, comme ça, en survol, avant de commencer à plonger dans les détails, dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez pensé brièvement de ce tome-là? Ou, en fait,
Pense Karine en premier.
Karine, dis-moi ce que tu as pensé de ce tome-là. Et en fait, même, excuse-moi, là, je vous enlève ça, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour Cheval Indien.
Ouais.
J'ai donc jamais eu, ou du moins en live, j'ai jamais eu ton avis sur les chroniques de San Francisco jusqu'à maintenant. Avant de me parler du cinquième tome, dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses de cette série-là?
Je trouve ça vraiment super particulier, surtout les premiers tomes. En fait, ce que j'ai envie de dire avec le tome 5, c'est comme on suit plus des personnages précis, puis on a moins genre oh, on s'en va à telle place, puis on rencontre le mari, puis la femme, puis la mère, puis les petites aventures de tout le monde, là, tu sais. Fait que je trouve, je commence, c'est je n'étais pas prête à répondre à cette question-là,
Je suis désolé, je te mets dans le spot, mais tu sais,
quand
il n'y a aucune
même.
pression là,
Mais c'est ça.
on est entre nous.
Mais ça commence. J'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment intéressant depuis le début, vraiment particulier. J'aime beaucoup Je pense que c'est plus pour découvrir San Francisco à cette époque-là, puis la communauté, puis tout ça là-dedans qui fait que moi qui m'intéresse. Parce que quand je les ai commencés, je me suis pas. Faut dire aussi que j'ai commencé. Moi, ma première expérience avec les Chroniques de San Francisco, ça a été la nouvelle série sur Netflix qui est inspirée de genre les trois derniers tomes. Fait qu'après ça, quand je suis tombée dans le premier, j'étais comme, OK, c'était pas du tout à ça que je m'attendais. Fait que ça a été assez particulier, mais j'aime vraiment beaucoup l'expérience jusqu'à maintenant. Puis comme je disais, j'aime le fait qu'en ce moment, on est comme plus dans des personnages particuliers, puis qu'on les suit un petit peu plus en profondeur, puis qu'on découvre un petit peu plus qui ils sont. J'ai l'impression que oui, le côté soap opéra est encore là, dans le sens qu'on a beaucoup d'intrigues, puis de choses qui se passent, mais on s'intéresse un peu plus à la vie intérieure des personnages. Rendu là, puis j'aime bien.
Oui, puis j'ai l'impression qu'il prend vraiment plus le temps de respirer. Il y a plus une largeur, on passe plus de temps. Les chapitres sont plus longs, même on passe vraiment plus de temps avec les quelques personnages qu'on suit, contrairement au jeu du saute-mouton qui étaient les premiers tomes. Ceci étant dit, moi, ça reste mes préférés, mais bon. Et puis donc, super, Daphné, tu n'étais pas là au tome 4. Veux-tu parler du tome 4?
Ah, oh, je peux bien parler du tome 4. Écoute, moi, en fait, c'est ça, c'était comme pas un bon moment pour moi pour lire le tome 4 quand vous l'avez lu. Fait que je me suis dit, je l'ai rattrapé au début du mois de mai, puis je me suis embarqué tout de suite dans le tome 5 pour pouvoir faire le live avec vous. Et moi, le tome 4, ça s'est pas super bien passé. J'ai trouvé ça vraiment très long avant qu'il commence à arriver quelque chose avec Michael. T'sais, il était dans son marasme, dans son deuil et tout ça de John. Puis là, il était rendu en Angleterre. Puis là, il rencontre le petit jeune. Puis j'avais des craintes. Finalement, l'histoire n'est pas allée où je craignais qu'elle aille. Puis tant mieux. Puis ce bout-là de l'histoire, ça a fini par me plaire. J'ai aimé qu'il retrouve aussi Mona et tout ça. Puis ça me divertissait. Ce bout-là, je l'aimais. Par contre. Et là là, l'histoire avec Marianne, il fait des espèces après des décisions, on va se dire, là, mais de marde. Puis des espèces de trucs alambiqués, pas possibles pour essayer d'avoir un enfant, puis de le T'sais, puis de pas dire à son mari que à ce qu'il était infidèle parce qu'en cachette, elle est allée prendre son sperme pour le faire tester. Honnêtement, là, ça, là, j'ai détesté cette ligne-là, là, comment on dit en français, cet arc-là, cette
Cette intrigue.
péripétie, là, cette intrigue-là entre Marianne et Brian. Je trouvais ça épouvantable qu'elle considère coucher avec un autre homme pour se faire faire un enfant. Puis ceux qui me connaissent là, un peu ma chaîne puis qui sont mes amis, ils savent que t'sais, moi déjà quand il y a de l'infidélité dans un roman, c'est pas ma force, c'est pas tellement quelque chose que j'aime. Mais là, la raison puis comment c'était fait, je dis mais parle-y donc, grosse conne. J'ai vraiment perdu tout respect pour Marianne là-dedans, puis j'ai été déçue parce que tu sais, à la fin, le bébé arrive, puis là, c'est comme si tout est réglé, il n'y a plus de problème. Puis Michael, il trouve que c'est bien correct ce qu'elle a fait. Puis tout le monde trouve ça, ben, c'était pas terrible, mais OK, tu sais. Puis je suis comme, mais voyons donc, c'est super toxique comme relation, vous n'êtes même pas capable de vous parler. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que ce bout-là, ça m'a pas plu. Mais bon, j'ai quand même embarqué dans le cinquième tome, puis là. Je t'ai envoyé un message, je t'ai rendu à 65%. Là, je t'ai appelé, j'ai dit Sylvain, je m'excuse, mais je vais faire une map de moi-même et je vais abandonner. Je vais abandonner le livre, puis probablement la série, parce que, puis tu sais, je t'ai rendu loin là, dans l'histoire, mais j'avais comme pas de plaisir. Tu sais, encore une fois. Il y a beaucoup d'histoires d'infidélité. Moi, ça me divertit pas tant. Puis il y en avait partout, là. Il y en avait avec le mari de la mère de Didi. Il y en avait avec Dore puis Didi. Il y en avait avec Brian, qui peut-être que. Tu sais, il y en avait vraiment partout. Fait j'étais comme. Je trouvais aucune histoire qui venait m'accrocher. Contrairement au quatrième tome, tu sais, que. Il y avait Marianne que je n'aimais pas, mais au moins tout ce que je vivais avec Michael, ça me plaisait. Mais là, je ne trouvais rien pour me raccrocher. Je n'étais pas investie du tout dans la nouvelle relation de Michael. Une chance, on n'a pas vu Marianne beaucoup, c'est le seul bon côté de cet homme.
Moi, c'est ça que j'allais dire. La bonne chose, c'est que Marianne n'est pas beaucoup là. La mauvaise chose, c'est qu'elle est pire que jamais.
C'est ça. Elle est pire que jamais, le peu qu'elle est là. Puis, tu sais, il y a comme des personnages avec qui on a passé beaucoup de temps et j'avais pas envie d'être avec eux. J'ai trouvé, tu sais, j'étais comme, t'es qui toi? Et pourquoi devrais-je t'accorder mon attention et mon temps? Et pourquoi devrais-je me soucier de ce qui t'arrive, vieux bonhomme qui est dans un club pour hommes patriarcal? Fait que c'est ça. Fait que j'avais peu d'intérêt. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, mais là, je lis, là, j'étais en diagonale, j'étais comme, je veux le finir. J'étais comme, hey, c'est niaiseux, ça. Je ferai pas ça, là. Ma résolution de l'année, c'est d'abandonner des livres quand j'ai plus de plaisir. Fait que même si je suis rendue aux deux tiers, j'abandonne. Fait que c'est ça qui s'est passé avec Significant Others que je disais en anglais. Fait que voilà, je suis désolée.
Ben non, mais moi, comme je t'ai dit, je suis content. Je suis content que tu aies quand même décidé de venir en parler parce que tu sais, c'est une expérience de lecture que tu as eue, puis ça me fait plaisir que tu la partages avec nous. Puis en fait, moi, je veux surtout la seule affaire, tu sais, quand on recommande des livres aux gens, puis les gens les finissent pas ou ils les finissent, mais ils n'aiment pas ça. Moi, c'est tout le temps, tu sais, oui, ça me fait de la peine, mais c'est pas parce que j'ai aimé le livre, c'est juste que j'aurais voulu que tu aies du plaisir.
Mais tu sais, j'ai eu énormément de plaisir avec les trois premiers tomes. Je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai ri aux éclats à certaines scènes. T'sais, ça fait que je pense que c'est pas un échec total. Là. C'est juste que où ça s'en va. Puis, tu sais, j'ai aucune idée, mais moi, j'aime le petit nœud, le petit. Tu sais, les personnages qu'on a appris à connaître dans les premiers tomes. Là. C'est eux que j'ai envie de continuer à suivre. C'est eux que j'aime. Tu sais, Marianne, je comprends pas son développement, mais tu sais, mettons qu'elle avait une rédemption, là. Tu sais, je serais intéressée à la voir, tu sais, sa rédemption ou, tu sais, je sais pas, tu sais, voir Mona qu'on n'a pas vu du tout, Anna Madrigal, on la voit pas assez. On voit juste son histoire d'escalier. Tu sais, c'est eux auxquels je me suis attachée puis que j'avais envie de voir. Les autres, moins, tu sais.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Surtout que ils nous sont présentés, ces personnages-là, pas de la façon... Tu sais, au départ... Si je compare avec le début du premier tome, je me dis, OK, Marianne, c'est la petite naïve qui arrive en ville, mais est attachante. Brian, c'est le gars célibataire, mais tu sais, il est quand même sympathique. Anna Madrigal, elle nous arrive, elle offre un joint, elle est super weird, funky, on l'aime. Mona, je l'ai aimé tout de suite. Michael, je l'ai aimé tout de suite. Là, les nouveaux personnages qu'on nous présente, c'est une femme... qui est une mannequin qui s'appelle Ren, qui est une mannequin de taille plus. Puis une des premières scènes qu'elle a, elle rencontre un petit gars. Finalement, c'est pas un petit gars, c'est un adolescent de 17 ans. Il lui montre son pénis, il dit « Regarde, j'ai 17 ans », puis c'est correct parce qu'il a 17 ans. Ça, c'est une des premières scènes qu'on a avec elle. Ensuite, on a le bonhomme patriarcal, comme tu disais, là, qui est dans le groupe patriarcal, puis qui est comme... lui, il sort de je sais pas où. Il est en couple avec un personnage qu'on a un petit peu vu, mais qui n'est pas le personnage principal des autres livres.
Fort qu'on en reparle, d'ailleurs, ça. Je me suis pris des notes, là, tantôt. On y reviendra.
OK. On y reviendra. Mais puis là, on nous le présente comme étant, c'est ça, ce personnage-là qui s'en va avec ses boys, non seulement voté, mais je pense qu'il travaille pour Reagan, ou c'est pas clair, ou il travaille pour le parti, le parti conservateur, le parti républicain. Fait qu'on est dans les années Reagan aussi, il y a ça qui se passe, puis on nous le présente comme ça, puis en plus, il s'en va tromper la femme qu'on connaît, le personnage qu'on connaît. Puis, tac, l'amant de Michael qu'on rencontre à la prison d'Alcatraz. Et puis, je suis comme, OK, ben lui, j'ai pas vu d'aspect négatif à ce personnage-là. J'ai pas forcément vu d'aspect positif non plus. J'ai juste l'impression que c'est un fantasme, là. C'est un book boyfriend un peu... une poupée en papier là, qu'on découpe et qu'on habille un peu comme on veut. Là. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Fait que, tu sais, de tous ces nouveaux personnages-là qui sont tellement importants dans ce tome-là, je trouve qu'il n'y en a aucun qui nous est présenté, qui nous est introduit de façon sympathique autant que le premier tome le faisait. Tu sais. Puis, bref, j'aimerais bien aussi... j'aimerais bien donner la parole à Karine. On a parlé des tomes précédents, mais qu'est-ce que tu as pensé de celui-ci en particulier?
J'ai l'impression qu'il était... Moi, ça, je l'ai trouvé un peu lourd. Parce que, déjà, comme tu l'as si bien dit, il y a beaucoup de personnes... Nos nouveaux personnages ne sont pas nécessairement super sympathiques, puis ne sont pas... Leurs histoires ne sont pas les plus intéressantes. Puis, tu sais, t'as comme toute l'espèce de trame de fond, parce que, tu sais, on avance dans le temps, on est rendu des années 80, donc c'est l'épidémie de sida, tout ça, donc tout ça, ça contribue au fait que c'est, je pense que c'est en partie ça qui contribue au fait qu'on n'est plus du tout dans le même ton que les premiers tomes, mais par moments, ça devient lourd à porter, là, tu sais. Comme c'était la réalité de cette année-là, puis tu sais, comme, si tu prends, mettons, le personnage de Michael, c'est la réalité dans laquelle il patauge à ce moment-là, tu sais. Mais ça fait que le livre il peut être des fois lourd. C'est une lecture qui devient lourde, qui devient difficile. Puis si le reste n'est pas nécessairement toujours super agréable, ben ça contribue à faire que c'est... Tu sais, je vais continuer la série, mais tu sais, la raison pour laquelle je vais continuer la série... C'est parce que j'ai vu la série sur Netflix. Fait que j'ai une bonne idée de ce qui s'en vient des tomes 6, des tomes 7, 8, 9. Puis j'ai hâte qu'on en arrive là, tu sais. Mais c'est la raison principale pour laquelle je m'accroche encore. Parce que sinon, ça se peut que j'aurais comme fait moi aussi. C'est pas le truc que j'aime le plus en ce moment à lire, là, tu sais.
Non, c'est ça, c'est la deuxième trilogie, c'est vraiment les livres sombres, je trouve. Puis en même temps, c'est ça, ça reflète l'époque à laquelle ils ont été écrits, donc il y a ça. Puis je voulais aussi dire, parce que tu as parlé du sida, c'est quelque chose qui se passait à l'extérieur, mais dans le roman aussi, on apprend premièrement que Michael a le sida. Et il y a une longue intrigue sur peut-être que Brian a le sida aussi.
Seule intrigue qui m'accrochait un petit peu. Puis quand je l'ai décidé de ne pas l'abandonner, j'ai juste dit à Sylvain, dis-moi juste si Brian est séropositif ou non. C'est la seule chose qui m'intéresse.
Ça, ce qui est drôle, c'est comme j'ai dit, moi, j'ai vu la série sur Netflix, fait que cette intrigue-là n'était même pas intrigante parce que je le savais, tu sais.
Je le savais, c'est ça, ouais. J'ai pas vu la série, moi. Peut-être que je vais me rabattre sur la série.
En fait, je te conseille pas de te rabattre sur la série parce que ça spoil comme vraiment beaucoup de livres à venir, là. Moi, je me suis spoilé les livres 7, 8, 9, là. Mais c'est correct. Je vais avoir du plaisir à les lire, là, mais c'est ça. Mais en fait, je voulais juste revenir sur le fait que tu m'as effectivement laissé un message. Je m'excuse, j'en parle en live. Mais tu m'as laissé un message pour me dire, là, Brian, y a-tu le sida, là, finalement? Puis quand tu m'as laissé ce message-là, je ne l'avais pas relu encore. Puis je ne me souvenais pas vraiment. Il me semblait que non, mais tu sais, je ne m'en souvenais pas vraiment. Moi, j'ai lu ça à l'adolescence, tu sais. Puis là, une journée plus tard, tu m'as renvoyé un autre message, je me disais, mais là, y a-tu le sida, là, où il l'a pas? Fais juste péter ça, s'il te plaît.
C'est la seule chose qui m'importait.
C'est la seule information importante. Le nom, finalement, il l'a pas.
Tant mieux pour lui.
Mais si t'as aucune intention de continuer les livres, peut-être que tu pourrais apprécier la série Netflix, la nouvelle série. C'est ça qui a fait que j'ai été curieuse de savoir c'était quoi exactement, parce que c'est pour ça que je l'ai commencé à la base il y a quelques années, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la série Netflix.
Ouais, je vais réfléchir, je vous tiendrai au courant de ce que je décide de faire, mais c'est ça, parce que je pense pas honnêtement que je vais continuer la lecture.
Non. En tout cas, je me souviens vraiment pas du sixième tome, sauf une intrigue, puis spoiler si tu ne l'aimeras pas.
Ah ben voilà!
Mais ça n'a pas rapport avec aucun des sujets que tu as mentionnés, là, mais...
Ah oh non, mais tu sais, tu me connais.
Non, c'est ça.
Comme lectrice,
la seule intrigue dont je me souviens, c'est que tu ne seras pas fan. Donc, je pense que Karine a tient quelque chose. Tu pourrais juste regarder la série, puis je pense que ça serait satisfaisant.
Parfait.
Il y a une chose dont je voulais parler, c'est l'espèce de... dialogue qui se passe, de longs dialogues au fil des jours qui se passent avec Didi et Dor dans l'espèce de le festival de musique féminin. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment très drôle où les deux femmes doivent laisser leur fils parce qu'on se souvient qu'elles ont des jumeaux. Une jumelle et un jumeau. Et donc, elles doivent laisser aller leur fils parce que, je cite, « son pénis qui n'a pas encore 10 ans est une menace aux femmes du camp ». Puis j'ai beaucoup... En fait, la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé Dor parce que je trouvais j'ai beaucoup aimé Dor. Elle fait des choses vraiment répréhensibles, là, puis je n'apprécie pas ce qu'elle fait. Mais j'aime sa personnalité parce qu'elle me rappelle vraiment beaucoup... ce féminisme des années 80, ce féminisme lesbienne des années 80, moi, j'ai vécu les années 80, mais j'étais vraiment un très, très jeune enfant. On ne me parlait pas de féminisme à l'époque, mais je me souviens de ces femmes-là, tu sais, puis j'avais lu aussi, ça me faisait penser au roman « Le cœur découvert » de Michel Tremblay, dans lequel le héros a des amies lesbiennes qui féminisent tout. Donc, elle parle de « la plancher ». Quoi?
La goddesse au lieu de la déesse au lieu de Dieu.
Puis, oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils féminisent tout. Puis, je trouvais ça vraiment très drôle. Puis, ça me rappelait ça. Puis, j'aimais vraiment beaucoup ça. Tu sais, je les ai connues, ces femmes-là. Puis, je trouve que c'était. Je sais pas. J'étais nostalgique par proxy à cause de ça. J'ai bien aimé ces moments-là. Ça, je pense que ça a été probablement le point fort du. De ce roman. Daphné, tu avais un point, là, tu voulais dire...
Moi, je voulais qu'on parle un petit peu de Franny, là, qui est la mère de Didi, qui s'est remariée. Elle s'est mariée avec cet homme, Booter, dont je me contrefous, mais que j'ai dû suivre pendant plusieurs pages jusqu'à temps qu'il tombe endormi dans un canot puis qu'elle aboutisse dans le camp des femmes puis que je me fasse... Je suis plus capable. Moi et toi, ça va être plus intéressant. Non, pas lui que je voulais parler. Je voulais parler de Franny. On dirait que je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage-là entre la dernière fois qu'on l'a vu puis maintenant. Parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était pas dans le dernier livre, c'était à la fin de la première trilogie et elle découvrait un espèce de resort pour femmes matures où elle allait pouvoir explorer sa féminité, sa sensualité, maintenant qu'elle était veuve, puis là, elle pouvait crier, puis se laisser aller. Puis là, elle avait l'air d'être bien partante pour ça. Puis là, on arrive quelques années plus tard, puis elle s'est mariée avec son voisin, puis elle a recommencé à boire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein?
J'aimerais le savoir. Ça aurait été une intrigue intéressante à développer.
Avez-vous des théories? Parce que moi, tout ce que je me dis, c'est qu'il a oublié. Là, il a oublié qu'il nous l'avait laissé dans cette situation-là, puis il nous la ramène quand elle était comme malheureuse. Mais pourtant, elle avait l'air de s'émanciper et tout. Puis là, il nous la ramène dans une situation pire qu'avant. J'étais vraiment déçue de ça.
Oui. Mais en fait, c'est pas exactement vrai ce que tu dis, dans le sens que la scène qui se passe dans les bois, là, où elle est avec des beaux messieurs, puis tout ça, elle explore sa sensualité, c'est dans le deuxième tome. Entre le deuxième tome, c'est ça, entre le deuxième tome et le troisième tome, elle a, pendant des années, cru que sa fille était morte.
Ah oui.
Et ses deux petits-enfants. Elle a fini par les retrouver, miracle, tout ça, mais Il s'est passé des choses un peu plus dramatiques, je pense, dans sa vie.
J'ai l'impression que c'est comme... tout a tellement été bousculé dans sa vie que là, c'est comme elle avait besoin de retrouver un repère. Puis comme être comme... En plus, pour une femme de cette génération-là, c'est comme une vie stable, ça veut dire avoir sa petite maison, puis son petit mari, puis son petit chez-soi, puis même si elle est malheureuse, comme... Peut-être qu'en quelque part, elle se raccroche à ça comme une bouée, parce que c'est comme une vie normale, entre guillemets.
OK, je peux comprendre.
Avec sa fille qui est débarquée, avec ses deux enfants, puis son amante, puis toute la patente, là, c'est comme, c'est sûr que pour elle, c'est bien. Elle fait des gros efforts, mais c'est bien déstabilisant, on s'entend.
Effectivement, vu de même. Toi, je pensais que c'était dans le troisième tome, mais effectivement, faites de très bons points.
Là, c'est parce que il y a quelqu'un qui m'a passé un petit reel là, sur Instagram, puis ça me fait penser un petit peu à ça, fait que je vais le dire. Moi, je suis tombé dans le rabbit hole des Real Housewives. Puis il y a un petit reel que j'ai vu aujourd'hui même. Ça commence avec une des housewives de New York. Je m'excuse, je les connais pas par leur nom. C'est dans le générique d'ouverture, sa phrase c'est je n'ai pas besoin d'amour, je m'aime moi-même. Puis ça cote à elle saoule le soir qui dit je veux un homme. puis en tant que personne célibataire depuis très longtemps qui n'a pas besoin d'amour dans la vie, ben ça m'arrive aussi de me dire, hey, ça serait, c'est vrai que ça serait le fun des fois d'être avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui est près de nous. Puis je pense que c'est dans ces moments-là qu'on est peut-être un petit peu plus vulnérable. Puis là, j'extrapole énormément parce qu'il n'y a rien de ça dans les livres, là. Mais je pense que, tu sais, il y a peut-être eu une passe comme ça où, wow, c'est le fun, j'explore ma sexualité, mais là, je reviens dans la vraie vie, je reviens dans le vrai monde, puis, tu sais, je me sens bien seul. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve ça très plate.
parce que j'aurais aimé ça qu'il continue d'explorer autre chose, mais en tout cas, mais en même temps, ce que vous me dites là, on dirait qu'effectivement, je me dis, ah, OK, ça se peut que ça soit la réflexion qu'il y a derrière tout ça, tu sais. Surtout, tu sais, ce que tu dis aussi, Karine, au niveau de, tu sais, les gens à cette époque-là, la manière qu'ils étaient habitués de vivre, puis ils devaient aussi avoir des attentes sociales, là, j'imagine, là, surtout qu'ils viennent d'une tranche de société un peu plus aisée. Puis lui, s'il est comme impliqué en politique, tu sais, il fallait sûrement pas qu'il reste veuf, là.
Oui, puis ça fait du sens pour moi qu'elle soit allée dans cette direction, ou qu'elle soit allée avec un homme qui avait ces idées politiques-là, parce que elle représentait un peu cet aspect-là là, au départ, avant de savoir que sa fille allait se mettre en couple avec une femme, puis de savoir plein d'affaires. Au départ, elle était vraiment plus de droite.
Oui, absolument. Absolument. Sinon, l'autre affaire là, dont moi je voulais parler, c'était un peu de Ren. Parce que moi, je trouvais que ce personnage-là, au début, quand je l'ai vu arriver, j'étais vraiment contente. Je trouvais que c'était un personnage qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Je trouvais que, tu sais, ben, il y avait l'histoire avec le petit gars, là, tu sais, qui se montrait l'entrejambe. Mais.
Il a 17 ans.
Oui, c'est ça, qu'il a 17 ans. Mais, tu sais, je trouvais qu'elle avait de l'air, tu sais, sûre d'elle. Tu sais, elle n'a pas la langue dans sa poche. Tu sais, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tu sais, elle s'assume comme elle est. Puis elle semble s'aimer comme elle est.
Remettre à sa place Marianne, ça.
Oui! Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, j'étais vraiment comme « Oh, cool! » Tu sais, je suis contente de voir ce personnage-là. Mais encore une fois, on dirait que le personnage n'est pas allé où je m'attendais. Tu sais, c'est de ma faute d'avoir peut-être eu des attentes aussi, mais j'ai trouvé ça facile qu'elle tombe dans le « Il y a un homme qui lui offre de l'argent pour qu'elle soit sa concubine l'espace d'un week-end et elle accepte. » Tu sais, je me dis « Crime, il me semble que je pensais qu'elle ferait quelque chose de mieux, de plus grand, de plus noble que juste comme devenir un peu une escorte, un peu de luxe.
En quoi? Pourquoi il y a une absence de noblesse ou un problème avec le fait d'être ça?
Ben, Je sais pas, on dirait que c'est d'utiliser son corps pour. C'est peut-être
Ben,
mon. Je sais pas, c'est peut-être ma façon de voir les choses, là, mais tu sais, je sais pas.
sous le capitalisme, toute personne utilise son corps pour avoir un toit au-dessus de sa
C'est.
tête. Puis ben, moi, je suis traductrice, je vends mon cerveau au lieu de mon corps, mais le principe est le même, là. Les hommes qui travaillent dans les usines, qui se défont le dos à faire des affaires, ça, le principe est exactement le même.
C'est effectivement une bonne façon de voir les choses. Moi, le problème que j'avais avec ce personnage-là, c'est qu'au départ, on nous présente une femme forte, une femme qui est belle parce que c'est un mannequin, là. On sait, elle est voluptueuse, on nous la décrit, là, elle est belle, elle est voluptueuse, elle a des courbes et tout. Mais ultimement, puis enfin, tu sais. C'est parce que je trouvais que moi, justement, je pensais qu'il s'en allait à quelque part avec ça. Je pensais qu'il y avait un point à faire avec ça. Je pensais que ce personnage-là était grosse, puis il allait faire quelque chose avec,
Oui,
ou il allait aller dans une direction avec ça. Mais
effectivement.
finalement, il se passe absolument rien. Là, ça pourrait être n'importe quelle autre femme. En fait, je pense que, tu sais, elle était grosse alors qu'elle aurait pu être mince, qu'elle aurait pu être brune, qu'elle aurait pu être blonde. Tu sais, genre, c'était juste un attribut physique,
Ouais,
puis c'est pas rien passé avec ça, là.
je comprends. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple d'un personnage que j'étais comme contente, puis finalement. Je crois que ça a fait un peu patate, en fait.
Mais
Tu sais, ça s'en allait quelque part, puis j'étais comme, finalement, ça fait pas grand-chose.
elle aurait pu être interchangeable avec n'importe quel autre
Oui.
personnage féminin, dans le fond.
Oui.
Exactement.
Exactement. Fait que c'est ça.
Avais-tu d'autres points, Karine?
Je pense pas, ça fait genre 2 semaines déjà que je dis ça.
Non, je sais, puis c'est moi qui.
Ouais.
Le pire, c'est que je t'ai rappelé comme Hey, viens faire le live! Alors que ça fait un bout que tu l'as lu, je sais. Mais c'est cool, c'est cool. Il semblait que moi, j'avais autre
Moi,
chose.
j'avais une question parce que, tu sais, vu que je ne l'ai
Oui?
pas fini, là, finalement, les marches, il arrive quoi avec ça? Elle les sauve-tu,
Oh,
les
attends,
marches?
attends. Ça, c'est une chose dont je voulais discuter, justement. Merci de me le rappeler, à la mémoire. La raison pour laquelle Marianne, je la déteste plus que jamais, c'est que non seulement elle a gravi les échelons de la société, maintenant elle est meilleure que le 28 Barbary Lane, là, maintenant elle a un beau condo, puis tout. Puis non seulement ça, mais ça l'intéresse plus d'aider les petites personnes qu'elle connaissait avant, là. Tu sais, Anna Madrigal, elle a un combat en ce moment. Elle veut sauver des marches qui vont être faites. Je l'explique vraiment grossièrement, là, mais c'est vraiment pas plus intéressant à lire qu'est-ce que j'en dis. Puis c'est ça, elle veut sauver des marches, donc elle demande de l'aide à Marianne, qui est à la télévision, qui pourrait faire un reportage là-dessus, puis tout ça, mais c'est pas assez intéressant pour elle, c'est pas assez gros comme histoire. Alors, éventuellement, à la fin du livre, elle va décider de s'enchaîner aux marches pour pas que les démolisseurs les démolissent. Et là, évidemment, là, ça va amener un peu de caméra sur ce qu'elle est en train de faire. Puis, il y a des gens qui vont se joindre à elle, là. Michael va lui amener des trucs à manger, tout ça, là. Tu sais, ils vont se mettre ensemble, là, enchaînés autour des marches pour les sauver. Et ça réussit. Voilà.
Ça réussit. Ah
Ça
ben,
réussit. Ils ont sauvé
ouais,
les
écoute,
marches.
on a sauvé les marches, puis Brian n'est pas séropositif. Bon, ben, écoute
Mais non, mais Brian
donc.
n'est pas séropositif. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour vrai. On disait qu'on
Oui,
s'était pas attaché au
effectivement.
nouveau personnage, là. Moi, je me suis pas attaché pantoute aux marches, là.
Ah.
Ça, c'est clairement vrai. Fait que, tu sais, qu'elle soit sauvée ou
Ouais.
non, là, j'en avais pas grand-chose à faire.
Mais ça nous donnait un petit moment avec Anna Madrigal qui n'était pas assez présente.
Oh mon Dieu, elle est cruellement absente. Puis Mona, elle n'est pas là du tout. Enfin, non, c'est pas vrai. Elle n'est pas là du tout. Je pense qu'elle écrit une
Ouais,
lettre
c'est
à un moment
ça, on a ses
donné.
nouvelles par des lettres. Mais j'ai
Puis.
l'impression,
Non,
excuse-moi.
non, non, vas-y, vas-y.
J'ai l'impression que l'intrigue des marches, ça devenait juste une affaire de plus qui est en train de qui pour montrer à quel point le gouffre entre Brian et Marianne est tellement grand. Eux autres, c'est comme ils sont encore ensemble parce qu'il y a un enfant, puis encore on s'entend que C'est Brian qui s'en occupe, là, tu sais.
Ouais. Tu sais, moi, je peux pas vraiment vous demander ça parce que vous avez vu, tu sais, la série, comme vous dites, mais tu sais, moi, tu sais, si j'y allais dans une prédiction, là, tu sais, moi, ce couple-là, je leur donne pas longtemps, là. Puis je suis comme surprise qu'ils soient encore ensemble. Tu sais, quand tu ouvres le tome, suite à ce qui s'est passé dans le dernier, j'étais comme, mais voyons qu'ils sont encore ensemble. Je m'attendais à ce que, finalement, ils soient plus un couple.
Mais ça, Karine, j'aimerais qu'on n'en parle pas. Parce que j'ai fait des avertissements pour le divulgauchage de ce cinquième tome, mais il y a des gens qui n'ont pas encore lu le sixième, puis c'est
C'est
les
correct.
septièmes et les autres. Donc, j'aimerais mieux qu'on garde ça. Au pire, on en parlera entre nous.
Ben, tu sais, je
Mais
vous dirai quand vous ferez le live du sixième, puis j'aurai sûrement réponse à ma prédiction.
Ah, puis une autre affaire aussi qu'on a oublié de dire là, dans ça. En fait, moi, ce que je t'ai dit, Daphné, c'est que tu pourrais lire juste le dernier chapitre du cinquième tome parce que
Oui, c'est ce que j'ai fait.
il y a un dialogue entre Brian et Ren au téléphone. Puis
Ouais.
ils se donnent toutes les nouvelles qu'ils ont à se donner, puis ça te dit tout comment ça
Ça,
finit.
encore une fois, tu sais, on dirait que
C'est quoi cette
c'est
relation-là?
ça, c'est quoi cette relation-là? Puis, tu sais, on dirait que je pense que ce que j'attends, j'aurais voulu de Ren, c'est qu'elle se réalise autrement que par ses relations avec les hommes. C'est, tu sais, qu'elle fasse quelque chose au-delà de ça et pas que par ça. Si elle veut le faire un peu en partie, c'est bien correct, là, mais on dirait qu'il n'y avait que ça qui prenait toute la place. Puis c'est ça que je pense qui m'a fatiguée. Puis je n'ai pas compris ce que cette affaire-là avec Brian. Je trouve que ça sortait de nulle part. Puis.
En fait, j'ai l'impression que ça naît du fait que tous les deux ont comme tous les deux ont comme des ressentiments envers Marianne, puis c'est comme un petit
Ouais,
peu ça qui les a liés, là, mais c'est pas grand-chose, là, je l'admets.
Puis je voulais dire d'autres choses, mais je pense que j'ai oublié. C'est pas très grave.
Mais en fait, pendant le roman, Ren, elle va dire à Brian, hey, ça serait le fun, là. Les hommes, ils ont besoin des projets, là. Ce serait le fun que tu aies un projet à m'amener. Puis qu'est-ce qu'on apprend dans la conversation téléphonique? C'est que Michael l'a engagé pour travailler à la serre. Voilà.
Mais tu vois, moi, ce que j'aimais, tu sais, dans les autres tomes, c'est que, tu sais, l'auteur, là, il arrive toujours, tu sais, mettons, il va avoir comme trois, quatre histoires qui sont chacun dans leur coin. Puis là, au fil de l'histoire, poupoupou, ça se rejoint, puis là, tu te rends compte que finalement, tout est relié. Dans les premiers tomes, moi, je trouvais que c'était super, super bien fait. Même dans l'autre précédent, avec l'histoire de finalement, il retrouve Mona, puis ça, je trouvais que c'était intéressant. Dans celui-là, on dirait que j'ai trouvé ça malhabile. En tout cas, ça m'a. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'était vraiment des personnages complètement nouveaux. Mais on dirait que quand j'ai compris où ça s'en allait, puis comment qu'ils allaient tous finalement être, tu sais, avancer à la même place, parce qu'ils s'en allaient tous à la rivière, puis qu'il y allait, on allait, tu sais, c'est sûr qu'ils allaient trouver une façon de les faire se croiser ou peu importe. J'étais comme, ah, je l'ai vraiment vu venir, tu sais, de loin, puis ça m'a pas apporté la même satisfaction peut-être que dans les autres tomes. Mais bon, là, je vais arrêter de chialer. Je suis très négative sur ça, que je n'ai pas aimé.
Non, mais premièrement, non, mais t'as le droit. Mais c'est vrai que c'est un peu plus forcé. T'sais, en fait, dans les autres tomes, ce que j'avais l'impression, ou en tout cas dans les tomes que moi j'ai aimés, la façon que ça se déroulait, c'est qu'on découvrait des liens, on découvrait des choses qu'on ne savait pas forcément.
Ouais.
Alors que dans ce tome-ci, on force les gens ensemble, tu sais.
Oui, c'est
Fait
ça.
que je pense que c'est un peu ça
C'est
qui est
super bien
moins
dit.
habile puis moins le fun.
Ouais, je pense que tu as mis le doigt dessus. Je suis bien d'accord.
Moi, je pense que j'ai fait le tour. J'ai quand même plus aimé ce tome-ci. J'ai quand même eu plus de plaisir à lire ce tome-ci que le quatrième. Parce que le quatrième, comme tu disais, Karine, c'était très lourd, là. C'était très,
Je pense
ouais,
qu'à un
très,
moment
très
donné,
lourd.
dans le quatrième, j'attendais juste le moment de voir comment est-ce que ben, Brian et Marianne allaient hériter de l'enfant de Mona, là, tu sais, c'était comme... C'est-tu l'enfant de Mona? Je sais plus.
Non, c'est
Non, c'est
l'enfant
l'enfant
de son
de
ancienne
Sean.
coloc.
Ouais, c'est ça, mais bref, oui,
Sean.
Sean,
Sean.
c'est ça, je me suis trompée.
Ouais.
Ben, tu vois, je pense pas. Moi, quand je l'ai lu pour le live, je me souvenais que ça se passait, mais je Je ne sais pas si je l'avais vu venir, honnêtement, mais en même temps, je me trouve, tu sais, j'étais un adolescent, là. J'avais
ouais,
des yeux d'adolescent.
Oui, je pense qu'il y a aussi l'âge à laquelle tu découvres ces livres-là pour la première fois, c'est sûr que ça fait une différence, tu sais. Probablement que moi, je suis rendue trop vieille. Je me rappelle que j'ai lise quand j'étais plus jeune, tu sais, plus proche de leur date de publication, puis ça aurait peut-être mieux passé.
Mais est-ce que c'est nous qui sommes rendus trop vieux ou est-ce que c'est juste les temps qui ont changé?
Il y a des choses qui ont mal vieilli, là, quand même.
Oui.
Il y a des choses que, tu sais, comme, je sais que si je mélange j'avais eu les années 90, ça ne m'aurait pas dérangé. Puis aujourd'hui, je suis comme, ah ben oui, il y a ça.
Oui.
Oui, effectivement.
Est-ce que vous avez une dernière pensée sur quelque chose à dire sur le 5e tome? Sinon, on passe aux recommandations culturelles.
Moi, ça va.
Excellent. Ben alors, commence donc, Daphné. Après avoir poupé le party, maintenant tu
peux. C'est pas vrai. Je voulais vous parler. Ben là, j'ai pas d'image là, mais j'ai écouté un balado récemment. Vous savez que je suis très fan de balado. Mm-hmm. J'ai écouté un balado récemment sur Audio, donc il est disponible gratuitement, qui s'appelle Fais un homme de toi sur les thérapies de conversion. C'est excellent. C'est très touchant. C'est pas facile tout le temps. Puis des fois, on est un peu confronté parce qu'on voit, ils prennent le soin d'interviewer des gens qui ont des opinions différentes aussi, tu sais. Puis des gens aussi qui ont eu des vécus, tu sais, plus ou moins faciles. Là. Ça dépend à qui. Il y en a que c'est pire que d'autres, puis il y en a que ça s'est mieux passé. Mais tu sais, c'est vraiment un balado qui fait le survol, tu sais, parce que maintenant au Canada, c'est interdit par la loi de faire des thérapies de conversion, mais tu sais, avant ça, il n'y avait rien. T'sais, c'est très récent, là, ça date de quelques années là, que c'est interdit. Puis avant ça, il y en avait de toutes sortes. Puis là, moi, en l'écoutant, je me suis rendu compte que c'est souvent relié à la religion quand même, là, quand il y a des thérapies de conversion. Puis pour toutes sortes, tu sais, pour des hommes gays, des femmes lesbiennes, pour des personnes trans, tu sais, on a plein de différents portraits, puis des gens qui ont lutté, puis qui se sont mobilisés justement pour faire changer les choses, puis au contraire, des gens qui, eux, sont convaincus qu'ils en ont fait une, puis ça a fonctionné, tu sais, fait que des fois, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant. Fais un homme de toi, thérapie de conversion, ça s'écoute vraiment bien. Mais moi, je l'écoutais par petite dose, par exemple. T'sais, je ne l'ai pas bingé là, d'une shot là, parce que, tu sais...
C'est lourd.
Ça peut. Des fois, tu fais comme ouf. OK, tu sais, mais c'était vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est ça qu'ils disent, il n'y a pas ou peu de données sur les thérapies de conversion au Canada. Fait que là, tu sais, ils sont en train aussi d'essayer de creuser le sujet un petit peu pour savoir... qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là chez nous, tu sais, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu plus documenté, mais ici, pas tant. Mais ça existe quand même, puis c'est souvent caché, puis sous forme d'exorcisme, puis ça fait de même. Tu entends des enfants, puis t'es comme, mais voyons donc! En tout cas, ouais.
Mais en fait, tu disais que c'est illégal maintenant au Canada, mais il me semble avoir vu un reportage où, tu sais, il y a quand même des activités qui ressemblent à ça, sans que ce soit nommé, qui se passent comme là.
Oui,
moment,
exact,
t'sais.
Exact. C'est ça, il passe en dessous là, du radar parce que là,
il appelle pas ça comme ça.
Puis, tu sais, il y a des barèmes, là, mettons, c'est illégal pour une personne mineure puis une personne qui ne l'a pas demandé. Mais une personne qui se ferait convaincre par sa communauté ou sa famille que c'est bon pour elle de faire ça puis qu'elle fait avec consentement, tu sais, mettons, là, ben là, ça, c'est pas illégal, mais tu sais, c'est très dommageable. Puis ça parle beaucoup aussi des dommages que ça amène à long terme dans la vie des gens, là, fait que c'est très intéressant à écouter.
Excellent. Ben merci beaucoup pour cette suggestion qui est bien, dans le sujet d'aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça que je te dis. Je me disais, crime, hein?
Excellent. Karine, c'est quoi ta recommandation culturelle?
On change de registre complètement. Parce que moi, récemment, j'ai regardé The Idea of You, la comédie romantique, qui est sortie il y a une couple de semaines sur Amazon. Et J'ai été très. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai été très agréablement surprise.
Ah, ouais.
Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui vivraient dans une grange puis qui ne sauraient pas c'est quoi, dans le fond, c'est l'histoire d'une femme qui a la quarantaine, qui a une fille qui a genre 16 ans, qui, il y a de ça quelques années, s'est fait crisser là par son mari, puis qui évidemment est parti avec une femme plus jeune, qui a genre 24 ans. Puis, donc, au début du film, son ex avait acheté des billets pour Coachella, pour sa fille, pour ses amis, puis il devait les accompagner avec sa copine. Finalement, il y a une urgence avec la job, comme il fait pratiquement tout le temps. Il annule ce qu'il avait prévu avec sa fille pour aller travailler à la place. Et donc, c'est la mère qui prend sa place à lui, qui s'en va à Coachella voir le band dont sa fille est. Il était très fan il y a de ça quelques années. Elle l'est un petit peu maintenant, mais ils vont y aller quand même. C'est un band que c'est super évident que ça a été inspiré par One Direction puis Harry Styles. Si on sait que c'est de la fanfiction avant, là, quand le roman, c'est comme, c'est très, 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 très évident. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ne serait-ce que parce que, oui, le personnage de la femme qui est jouée par Anne Hathaway a l'impression d'être comme, ah oui, mais j'ai 40 ans, qu'est-ce que je fais avec un petit jeune de 24 ans, je suis donc bien ridicule. Mais le film ne nous donne jamais l'impression que c'est ce que le spectateur devrait penser. Elle va le penser, mais on n'a jamais l'impression que c'est ce que nous, on devrait penser. C'est vraiment une super belle comédie romantique. Le meet cute est, pour moi, je l'ai trouvé tellement drôle. J'ai vraiment, vraiment ri quand j'ai compris ce qui allait se passer, puis quand ça s'est passé. Le personnage masculin est vraiment, je l'aime beaucoup. Parce que lui, clairement, il est genre head over heel pour elle, puis la différence d'âge, ça change absolument rien, puis le fait qu'il vienne de milieux complètement différents, ça change absolument rien. C'est un acteur dont je me rappelle plus tôt, malheureusement, je ne peux pas dire le nom, mais que j'apprécie déjà vraiment beaucoup, parce que je l'avais vu entre autres dans Red, White and Royal Blue, puis que j'avais vu un autre film. Non, c'est une autre comédie romantique qui est sur
Il
Amazon.
était dans The Craft Legacy.
Merci, Sylvain.
C'est de là que je le connais.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment une bonne comédie romantique. Puis la crise, comment la relation va se compliquer. Puis comment ça se termine. Non seulement c'est une fin très satisfaisante, mais c'est réaliste aussi la façon dont ça va se passer. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis j'avais vu quelque chose, genre sur Twitter, de quelqu'un qui était comme, à chaque âge de ma vie, Anne Hathaway m'a donné le film dont j'avais besoin. Puis c'est vraiment ça, parce que tu sais, quand j'avais
Ah
genre,
oui,
j'étais dans le journal de
Princess
Queen,
Diaries.
j'avais 20 années avec le diable, vous savez, l'entrada, puis ça maintenant, c'est de faire comme. C'est vraiment nice. Vraiment feel good, j'ai vraiment aimé ça.
Ben, en fait, j'en avais entendu parler de ce projet-là, puis je me suis dit, OK, une autre fanfiction adaptée, tout ça. Là, j'ai vu le nom de Anne Hathaway, j'ai fait, attends, là, c'est une A-lister, là. C'est
Oui,
comment
oui,
dire? Ben, j'étais comme,
oui.
ah, ben,
Il y a une
soudainement, je suis
raison
curieux.
pour laquelle elle a fait ce projet-là. Tu sais, c'est vraiment bien comment c'est fait, puis
Moi,
c'est
je
quand
l'ai
même
vu, puis tu sais, pour
important.
vrai, Anne Hathaway, elle est magnifique, là. On va se le dire, là. Je veux dire, je sais pas c'est quoi le livre, tu sais, mais c'est sûr que c'est pas une madame ordinaire, là, de 40 ans qui séduit un petit jeune qui est super beau, super musclé et tout. Elle est sa coche, on va se le dire. Mais ouais, elle est vraiment
Fait que
très
t'es en
belle.
train de dire qu'on n'aurait pas de chance avec Harry Styles. D'accord.
Ah, c'est pas.
D'accord. Je vais essayer de vivre avec cette information-là.
Ouais,
Ben merci Karine pour cette recommandation-là. Je vais l'écouter. C'est sûr que je vais l'écouter. Ben, je ne savais pas trop de quoi parler, là. J'avais comme plein d'idées, mais là, vous m'avez vraiment convaincu de parler d'un livre qui vient de sortir, que j'ai lu, qui m'a vraiment fait capoter. C'est Rebel Girl, My Life as a Feminist Punk de Kathleen Hanna. Si vous ne connaissez pas Kathleen Hanna, elle était dans les groupes punk Bikini Kill et Le Tigre, et récemment, elle a aussi fait partie du projet Jolly Ruin. Et donc, Ça date, donc, elle faisait déjà de la musique dans les années 90. C'est entre autres elle qui a trouvé le titre Smells Like Teen Spirit. Elle était amie avec Kurt Cobain à l'époque. En fait, elle a, dans le temps, une autre fille de son band, Bikini Kill, sortait avec Kurt Cobain avant Courtney Love. En tout cas, bref, il y a beaucoup question de Kurt Cobain. Ben, pas beaucoup, mais il y a quand même question de Kurt Cobain parce que son amitié a été importante pour elle, mais aussi sa mort. Mm-hmm. Et ben en fait, je pense que le sous-titre veut absolument tout dire. « My life as a feminist punk », on va passer à travers les années 90, surtout les années 90. D'ailleurs, si j'ai un bémol, c'est que toutes les années, le tigre et après, on passe très vite là-dessus. Puis je trouve ça dommage parce que c'est quand même des choses qui, moi, m'intéressait beaucoup. Mais on passe vraiment beaucoup de temps donc, dans les années 90. Elle n'a vraiment pas eu une vie facile. Elle a grandi avec un père qui était vraiment dégueulasse avec elle. Elle était une fille dans un band à une époque où les filles ne pouvaient pas faire de la vraie musique. Ouais. Elle a lancé la fameuse phrase « Girls on the front » parce qu'elle voulait que ce soit les femmes qui soient à l'avant de la scène. Et d'ailleurs, elle est très instruite, elle est très féministe, mais elle est très instruite aussi. Elle est en perpétuelle évolution. Elle dit elle-même que ça, c'est quelque chose qu'elle ne ferait plus aujourd'hui, dire « Girls on the front » parce que maintenant, ben c'est ça, elle est consciente que c'est quoi une fille, ça pourrait mettre des femmes trans dans l'embarras, ça pourrait, tu sais, il pourrait y avoir des circonstances, tout ça, bref. Mais c'est ça, elle est très, très éduquée, très ouverte au monde qui l'entoure et très féministe, et elle a une espèce de rage parce qu'elle a vécu des choses, aussi parce qu'elle a très tôt dans sa vie, elle a été aide au téléphone, elle recevait des appels de femmes en détresse parce qu'elles étaient victimes de violence ou parce que ci ou parce que ça. Donc, c'est ça, elle a été vraiment confrontée à la réalité d'être une femme dans un monde d'hommes. Et en plus, elle a choisi de faire carrière dans un monde très masculin. Et donc, on suit cette femme-là, intelligente, intéressante, qui écrit vraiment très bien. Puis ça, c'est pas le cas de de toutes les personnes qui n'écrivent pas des livres. Elle écrit vraiment très bien, donc c'est vraiment un excellent livre. Je l'ai dévoré, je vais le relire assurément. Et j'adore cette femme-là. J'ai plein d'admiration. Maintenant, j'arrête pas d'écouter le premier album du Tigre parce que c'est un de mes top 3 albums à vie. Puis je renoue mon amour avec cet album-là avec plaisir. Bref, un excellent livre. Et aussi de l'excellente musique. Là, si ça ne vous tente pas de le lire, découvrez, si vous ne la connaissez pas, découvrez cet artiste-là dans sa musique. Vous allez avoir une claque, je vous le promets. Donc, avant de vous dire adieu, je voulais vous dire, pas adieu, là, avant de vous dire au revoir, je voulais vous parler du livre qu'on va lire au mois de juillet. Donc, ce sera « Rue du Plessis » de Jean-Philippe Plot. C'est mon le livre Dieu, de l'heure.
Mais oui, j'en entends parler partout.
Oui, c'est le livre de l'heure. Donc, d'ailleurs, il est en réimpression pour la troisième fois. Il est paru au début de l'année, là. Ouais. Alors, c'est ça. Si vous êtes capable de mettre la main sur votre copie, on va.
C'est la mère d'une amie qui l'a, qui est supposée de le prêter à mon amie. Je vais lui demander si elle voudrait me le prêter après.
Ben, j'aimerais bien ça.
Introuvable.
Il est dur à trouver, mais il sera disponible là, au mois de juillet, je vous le dis. Ne serait-ce que la pression que de faire partie de mon podcast va mettre sur leurs épaules, ils vont te grouiller, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'ils vont te grouiller juste pour ça. C'est Et bon. Puis, on se retrouve donc le mois prochain. Le mois prochain, on parle, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je me suis fait un petit thème pour l'été 2024, c'est l'été au Québec. Alors, on va parler de Match de Lily Boisvert. Ça, c'est à la fin du mois de juin. On se revoit pour ça. Et donc, merci, mes chers amis, d'avoir été là avec moi.
Permis de bâcher le livre.
ça me fait plaisir. Moi, premièrement, je ne l'aurais pas défendu bec et ongle, ce livre-là. Ouais. Tu sais, je suis un peu tiède par rapport à ce livre-là, mais aussi, Moi, avoir des avis, l'avis des. Moi, ce que je veux, c'est l'avis des gens, peu importe lequel il est, et puis si on peut débattre, c'est encore mieux.
Oui, ça amène une
Bref.
discussion.
Mais ceci étant dit, on n'a pas débattu tellement parce que, comme je te dis, je ne l'aurais pas défendu tant que ça. Mais bref, merci d'avoir été là et on se retrouve en juin.